Alors, bonjour à tous.
Ça va, vous m'entendez ?
Ah voilà.
Bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Alors, si vous avez été attentif au début du culte, vous avez peut-être déjà une intuition de quoi on va parler ce matin. Et non, ce n'est pas les yeux, même si c'est un sujet très intéressant. Non, ce matin, je réfléchissais à finalement qu'est-ce qu'on a le plus besoin en tant qu'être humain. Quel est le besoin fondamental qui nous permet ensuite d'être libre, d'être bien dans nos vies? Et la conclusion que j'ai trouvée, c'est que le besoin fondamental qu'on a, c'est la sécurité. Voilà. Alors, ce matin, on va parler de sécurité. Et pour cela, on va plonger et étudier le psaume 91, qui est justement, je pense, un des psaumes qui parle le mieux de la sécurité et de notre sécurité, celle qu'on trouve en Dieu, bien entendu. Et c'est vrai que ce besoin de sécurité, il est vraiment fondamental. Quand le bébé y naît, la première chose qu'il cherche, c'est la sécurité. Il cherche des bras qui le tiennent, qui le rassurent, qui lui donnent toute cette confiance et cette sécurité. Et puis, quand on grandit, on garde ce besoin-là. Et puis on le cherche tous de manière différente. Parfois on le cherche dans l'argent, dans le travail, dans la famille, dans les amis, dans plein de choses différentes. Mais c'est quelque chose qui est parfois même qu'on ne contrôle pas. Mais tous les êtres humains recherchent fondamentalement à se sentir en sécurité. Et si vous prenez l'inverse, c'est vrai qu'une personne qui n'a pas la sécurité, qui vit dans la peur et la crainte, ben souvent c'est quelqu'un qui peut pas aller bien et qui ne peut pas vraiment s'épanouir. Alors, on va plonger ensemble dans ce psaume 91. Et puis, pour le faire, tu peux déjà l'afficher, Thierry. Pour faire, on va utiliser l'analyse chiastique. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de venir ce matin à l'église? Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Alors, je vous rassure, ce n'est pas un gros mot. Qu'est-ce que c'est que l'analyse chiastique? Alors, c'est rien de très sorcier. En fait, vous le savez peut-être, mais les psaumes, souvent on dit c'est des chants ou c'est des poèmes, mais en tout cas, les psaumes sont écrits d'une manière particulière. Donc, de la même manière que la poésie, on va dire, européenne, souvent, vous savez, ça rime. Donc, c'est écrit d'une manière un peu particulière. Les psaumes, ils ont aussi leur propre manière d'avoir été écrits. Et c'est assez contre-intuitif pour nous, parce que vous, quand vous voulez développer une idée, qu'est-ce que vous faites? Vous partez du point A, puis vous développez, vous dites « Ah voilà, ça, ensuite un autre argument, et j'arrive à ma conclusion. » Mais les psaumes, eux, ils sont faits différemment. C'est-à-dire que la conclusion, l'idée principale, elle est au milieu du texte. Et puis après, en partant du milieu du texte, les idées sont développées en partant comme ça en cercle concentrique depuis le centre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous faites attention, souvent, le début du psaume, il dit la même chose, ou il parle de la même chose que la fin du psaume. Puis le deuxième paragraphe, il parle de la même chose que l'avant-dernier paragraphe, et ainsi de suite, comme ça. Et au milieu, vous avez le centre du psaume. Alors vous inquiétez pas, on va pas faire de l'analyse littéraire, mais c'est simplement cette structure qui va nous guider ce matin. Alors, je vous propose que nous lisions déjà ce psaume 91. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alors, j'espère que déjà là, vous vous sentez en sécurité et un peu rassuré. C'est quand même un psaume magnifique. Alors, je vous propose, dans un premier temps, qu'on étudie les deux extrémités. Donc là, vous pouvez vérifier que je n'ai pas dit n'importe quoi. On voit que les premiers versets parlent de cet aspect de reposer à l'ombre du Tout-Puissant, que l'Éternel est notre refuge, notre forteresse, un Dieu en qui on se confie. Et la fin du psaume, c'est Dieu qui parle là, qui dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, etc. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce psaume, il commence pas par dire « Celui qui, de temps en temps, se confie en Dieu » ou « Celui qui pense à Dieu quand il est dans les soucis ». Non, il commence par « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». Et ce verbe « demeurer », il est très important parce que finalement, c'est la condition de tout le reste du psaume. Donc si vous voulez bénéficier de toute cette protection et de toutes ces choses dont il est question après, la première étape, la plus importante, c'est demeurer à l'abri du Très-Haut, être proche de Dieu. Alors, ça peut paraître logique comme ça, mais si on réfléchit, comment les gens, par exemple, autour de nous, ils parlent de ça, ils vont dire « Moi, je pense que Dieu n'existe pas, parce que tu vois, là, Dieu, il ne t'a pas protégé. Je pense que Dieu, là, n'existe pas, parce que sinon, il ne serait pas arrivé ça. » Puis, ça paraît logique. Mais quand on lit ce psaume, on se rend compte qu'en fait, c'est une logique qui est retournée. Parce que la question, ce n'est pas « Est-ce que Dieu protège ?» ou « Pourquoi est-ce que Dieu ne protège pas ?» La question, c'est « Est-ce que tu as mis ton refuge en Dieu ? Est-ce que c'est Dieu ton protecteur ?» Et c'est dans ce sens-là qu'il faut poser la question. Et j'espère que vous m'excuserez, mais il me semble que la meilleure manière de comprendre ça, c'est de parler des assurances. Voilà, c'est très suisse. Mais comment ça fonctionne une assurance ? Une assurance, vous dites à une assurance, voilà, j'aimerais que vous assuriez ma voiture en cas d'accident, en cas de grêle, etc. Et donc, si vous arrive quelque chose, vous appelez l'assureur et il vous assure. Mais si vous n'avez pas pris l'assurance, ou si vous n'avez pas coché la case, par exemple, j'assure ma voiture contre la grêle, et bien, quand vous appelez votre assureur parce que la voiture est cassée à cause de la grêle, qu'est-ce qu'il va dire ? Ben, monsieur, vous n'aviez pas pris cette option. Vous n'êtes pas couvert par ça. Et du coup, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « Ah, le Seigneur, il ne protège pas, Dieu n'agit pas » si on n'a pas décidé avant que c'est Dieu qui nous protège. Si on ne demeure pas en lui et si on n'est pas sous sa protection. Donc encore une fois, ça paraît logique, mais je pense que ce n'est pas quelque chose qui est non plus naturel. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit, on doit se redire et qu'on doit refaire peut-être quotidiennement, de se replacer sous la protection de Dieu. Hein ? On l'a dit, je l'ai dit au début, c'est très facile de trouver sa protection ailleurs, c'est vrai. Peut-être on a un confort, peut-être on a un travail, peut-être on sent qu'on a une situation qui est stable, et le matin quand on se réveille, on se dit « Ah oui, bah, tout va bien, j'ai ça, je suis tranquille. » Mais de vraiment, déjà quand ça va bien, toujours dire « Seigneur, c'est en toi que je me confie, c'est auprès de lui que je trouve mon assurance. » Ça, c'est la première des conditions. Ensuite, si on continue dans l'exploration, on peut mettre en écho et en parallèle le verset 3 et 4 et le verset 11 et 12 qui, là, finalement, nous parlent de comment Dieu nous protège. Donc, on a dit, si on est auprès de lui, il nous protège, mais comment est-ce qu'il le fait ? Et donc là, on a cette première image qui est vraiment très, très belle, qui est de ce Dieu qui nous couvre de ses plumes et on a un refuge sous ses ailes. Hein, je pense que vous avez déjà tous vu des poules qui couvrent des poussins. C'est quand même très mignon et c'est très rassurant. Et je pense que c'est important parce que quand on parle du Dieu qui protège face au danger, on peut avoir, c'est vrai, il y a ce Dieu puissant qui peut agir, mais notre Dieu, il est aussi tendre, il veut nous protéger. Mais ce que vous voyez aussi là, c'est qu'il y a aussi cette notion de proximité. Hein, parce que la poule, les poussins, ils sont tout proches, ils sentent la chaleur. Et donc, encore une fois, si on veut bénéficier de la protection de Dieu, eh bien, il faut être proche de lui, parce qu'il en a envie, et parce qu'il veut aussi nous protéger avec cette tendresse. Ensuite, je ne peux pas passer sur la fin du verset 4 quand même, avec une dédicace à notre bonhomme ici qui est habillé, avec la fidélité qui est un bouclier et une cuirasse, où effectivement Dieu nous protège et Dieu est fidèle, et cette fidélité c'est vraiment une assurance et une protection permanente. Et puis, les versets qui résonnent avec ça à la fin, c'est cet aspect des anges. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains. Et ça, c'est très important parce que ça évite de tomber dans une forme de protection symbolique. Dieu me protège. Ok, peut-être il protège mes pensées, peut-être il me rassure quand des fois je suis un peu inquiet. Mais ce verset, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que c'est derrière la notion des anges ? C'est de dire que Dieu peut agir très concrètement dans notre réalité physique. Donc Dieu peut nous protéger vraiment dans la vie de tous les jours, dans des situations extrêmement concrètes, de toutes sortes de choses, d'accidents, de maladies, de mauvaises rencontres, d'une chute, de plein de choses. Dieu peut nous protéger dans notre réalité. Et peut-être je m'avance, mais je pense que vous avez tous des souvenirs ou des exemples concrets où vous avez senti cette protection concrète de Dieu. Vous savez, c'est ces gens qui vous disent, ben voilà, là je suis passé à deux doigts d'avoir un accident, et si je sens qu'il s'est passé quelque chose, sinon il me serait arrivé ça. Ces rencontres aussi improbables, des fois vous êtes dans des situations ou dans des lieux, et vous faites une rencontre, et quelqu'un vous parle et vous dit quelque chose, vous aide, et puis vous n'avez pas d'explication. Toutes ces choses sont un rappel que Dieu peut vraiment agir dans notre réalité physique, il peut vraiment nous protéger très concrètement. Ensuite, on en vient un petit peu plus au cœur du problème ou du sujet, c'est finalement de quoi est-ce que Dieu nous protège ? Alors, on pourrait se dire que le psalmiste, il s'est un peu lâché, il a fait une liste comme ça, il a dit « Oh, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Mais si on y regarde de plus près, on se rend compte qu'il a vraiment essayé de parler de toutes les sortes de dangers qui peuvent nous menacer en tant qu'être humain, mais en tant aussi que croyant. Alors, on va pas les étudier un à un, mais c'est vrai que là, ils sont quand même dits d'une manière un petit peu poétique et imagée, et je pense que pour pouvoir vraiment comprendre ce psaume, c'est important de peut-être se demander qu'est-ce que représentent ces divers éléments. Alors, il est dans le verset précédent, mais il est question de ce filet de l'oiseleur. Alors, je ne pense pas que ce soit une peur présente chez vous tous les jours d'être capturé par un oiseleur. Si ça l'est, ben, sachez que vous êtes protégé. Mais qu'est-ce que ça peut bien représenter pour nous, ce filet de l'oiseleur ? Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais si j'ai bien compris, l'idée, c'est qu'il prend un filet qui est très très fin, un peu comme une toile, comme une moustiquaire, et en fait, l'oiseau, il ne voit pas ce filet tellement il est fin, et donc il l'étend comme ça, et donc l'oiseau, il ne se méfie pas, et d'un coup, il se retrouve emprisonné dans ce filet, et il ne peut plus s'échapper. Alors, peut-être déjà, ça évoque un peu des choses, mais voilà, pour moi, ça représente un peu les tentations, les séductions, ces choses qui viennent petit à petit. Vous savez, on dit « Ah, je fais ça », mais en soi, c'est peut-être pas très grave. Et puis, petit à petit, on développe des habitudes. Et puis, un jour, on se rend compte qu'en fait, on est complètement pris dans quelque chose. Et donc, Dieu peut et veut nous protéger contre ça. Après, il est question de la peste, cette peste qui marche aussi dans les ténèbres. Alors c'est vrai que la peste, ça évoque quand même ces épidémies, ces maladies, quelque chose qui se diffuse, quelque chose de mauvais, qu'on ne peut pas voir, mais qui a des vrais symptômes, et puis qui avance comme ça de manière cachée. Là encore, je laisse vos cœurs aussi, qu'est-ce qui résonne en vous. Moi, ça m'évoque aussi peut-être un peu les idées aussi, les idées ambiantes, les ambiances comme ça, les idéologies. Nos jours, on est aussi beaucoup là-dedans. Il y a des mouvements, des choses comme ça qui se diffusent. On ne sait pas trop comment et pourquoi. Mais au final, c'est des choses qui peuvent aussi nous faire du mal et nous atteindre. Et puis, il parle aussi, bien sûr, au verset 5, c'est intéressant, il y a à la fois cette opposition entre les terreurs de la nuit et puis la flèche qui vole en plein jour. Alors les terreurs de la nuit, je pense que ça, c'est quelque chose qui nous parle. C'est voilà, la nuit, on a peur, c'est toutes les choses qui nous menacent, c'est ce sentiment, l'anxiété. Hein, ça, c'est aussi quelque chose, on doit tous combattre ça de nos jours, beaucoup d'anxiété. Puis la flèche qui vole en plein jour, là encore, on en a parlé, ça peut être ces insultes, ces mots qui nous blessent, de gens peu parfois proches. Et là encore, Dieu peut nous protéger face à ça. Et puis, il y a cette phrase sur laquelle j'aimerais m'arrêter, qui est le verset 6, où il parle de cette peste qui marche dans les ténèbres, on en a parlé, et puis qui nous parle de la contagion qui frappe en plein midi. Alors certaines traductions vont dire aussi le fléau qui frappe en plein midi, et puis les versions plus modernes disent carrément l'insolation. Voilà. Je pense que vous avez déjà tous peut-être une insolation, vous voyez un peu l'idée. Puis, vous le savez peut-être pas, mais en fait il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur ce verset-là en particulier, et qui se sont posés beaucoup de questions. Je ne vais pas vous dire toutes les questions qui se sont posées, mais il y a des idées intéressantes qui sont ressorties de qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ce fléau ou cette chose qui frappe en plein midi. On l'a dit, les malheurs de la nuit, on comprend. La nuit, on a peur, la nuit, il y a les dangers, la nuit, il y a des menaces. Mais le jour, en plein midi, qu'est-ce qui pourrait bien nous menacer ? Alors, il faut savoir, au Moyen-Orient, et puis chez nous, si vous vous rappelez la canicule, à midi, c'est là où il fait le plus chaud. Hein ? À midi, c'est le moment où, d'un coup, c'est pesant, d'un coup, on a cette lourdeur, on a envie de faire la sieste, et où c'est difficile. Et puis là, c'est un peu cette idée-là qui est développée de se dire, le soleil en plein midi, oui, il fait jour, mais ça peut être menaçant comme ça. Et l'idée aussi d'insolation, moi j'aime bien, ça me parle, c'est de se dire que comme ça, vous êtes là un peu insouciant. Moi, les insolations, ça m'arrive à la plage, c'est-à-dire je ne mets pas ma casquette, je profite, et puis d'un coup, je suis pas bien là. Et c'est l'idée de dire que effectivement, dans la vie, et dans la vie du chrétien, des fois ça va bien, et puis on avance, et puis on est content, et puis on se méfie pas plus que ça, et il y a des choses qui nous tombent dessus, et il y a surtout ce découragement, parfois cette crise de foi, FOI bien sûr, qui arrive et qui nous tombe dessus. De nos jours, on pourrait parler aussi du burn-out. C'est souvent des choses qui arrivent, vous avez quelqu'un qui est à fond, il y a plein de projets, il y a plein de choses qui arrivent, puis d'un coup, paf, il y a quelque chose qui casse, ça surchauffe, et là, on connaît une crise. Et puis, ces gens qui développent sur ça, ils parlent justement de ce découragement, de ce désert spirituel qu'on peut traverser des fois, et qui vient un peu sans prévenir. Et là aussi, je trouve ça très encourageant et très beau que ce soit dans cette liste, parce que là encore, Dieu nous peut et veut nous protéger de ça. Et moi, je connais beaucoup de gens, c'est vrai, qui me disent « Ah bah voilà, en ce moment, je suis un peu... spirituellement, c'est un peu, voilà, c'est un peu le désert, il ne se passe pas grand-chose, j'arrive pas à prier, j'arrive pas à lire la Bible. » Et souvent, il y a un peu une culpabilité qui va avec ça. On se dit « Bah c'est ma faute, j'ai qu'à prier, j'ai qu'à lire la Bible. » Et moi, je trouve rassurant et encourageant de se dire que là, c'est aussi vu comme un danger, comme une menace qui peut venir de l'extérieur, qui nous invite à dire « Je lâche la culpabilité, c'est pas de ma faute, ça peut arriver dans la vie, on peut avoir des découragements, on peut avoir des déserts. » Et de se dire « Ben, ce Dieu-là qui veut nous couver, qui veut prendre soin de nous, aussi dans ces cas-là, il veut prendre soin de nous. » Donc si vous êtes comme ça, dans une période un petit peu sèche comme ça, un petit peu décourageante, ben, sachez que vous pouvez aussi simplement crier à Dieu et dire « Seigneur, là, j'arrive pas, là, j'arrive plus, viens m'aider, viens me secourir. » Et puis, on arrive, ça y est, au cœur. Il y en a qui appellent ça la perle du psaume, dans cette manière d'étudier le texte. Donc on a vu que tout se répond, et puis à la fin, on arrive ici, dans le verset qui finalement, si vous faites attention, résume un peu tout ce qu'on a dit. « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Ce sera ma... On va conclure là-dessus, sur le cœur de ce psaume. Il y a le rappel que la condition première, c'est de faire de Dieu son refuge. C'est si vous êtes proche de Dieu, Dieu est là pour vous protéger. Et puis j'aime bien ce verset 10 parce qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect d'aucun malheur, donc toute cette liste exhaustive, tout ça, tu peux en être protégé. Et puis, aucun fléau n'approchera de ta tente. Il y a des traductions qui disent « aucun fléau n'approchera de ta tente », entre guillemets, peu importe où elle est. Puis ça me parle parce que ça dit aussi que nos tentes à nous, elles sont toutes plantées à des endroits différents. On vit tous des choses différentes. On n'est pas à la même saison de vie, etc. Mais peu importe où elle est votre tente aujourd'hui, Dieu est là et Dieu vous protège. J'aimerais dire une chose extrêmement importante. Non, le psaume 91 ne dit pas que si on est en Dieu, on n'aura pas de problème. D'accord ? Je préfère le redire parce qu'il y a des endroits où on ne dit pas forcément la même chose. Mais ce psaume ne dit pas ça. Et la preuve, c'est le verset 15 où c'est Dieu qui parle et il dit « Je serai avec lui dans la détresse ». Donc sous-entendu, il va y avoir des détresses. Ça, ce n'est pas ça que je viens vous dire ce matin. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que Dieu promet d'être là dans les détresses. Et ça, c'est quand même vraiment une bénédiction. Alors voilà, ce psaume, finalement, il nous rappelle que les dangers sont réels, les épreuves existent, il y a des attaques, mais que celui qui demeure en Dieu, il peut, dans sa présence, découvrir qu'il est plus fort et que surtout Dieu est plus fort que toutes ces menaces. Et ce psaume, si vous encourage ce matin et vous encourage à chercher la protection auprès de Dieu, mais en fait, ce qui nous encourage à faire, c'est tout simplement à être auprès de Dieu, à se rapprocher de lui, à le connaître toujours plus. Parce que c'est dans sa présence, et dans sa présence uniquement, que vous trouverez ce sentiment de sécurité fondamental pour le reste de votre vie. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ces mots du psalmiste qui, ce matin, vraiment viennent nous rappeler que c'est auprès de toi que se trouve notre refuge. Seigneur, merci parce que tu as la victoire sur toutes les menaces, tout ce qui peut nous arriver de l'extérieur, de l'intérieur, que ce soit physique, moral, peu importe, Seigneur, tu es plus puissant que toutes ces choses. Et Seigneur, merci pour ce rappel. Et Seigneur, nous voulons te dire aussi en communauté et en Église que c'est auprès de toi que nous voulons chercher notre refuge, c'est auprès de toi que nous voulons nous confier, nous blottir jour après jour. Seigneur, merci d'être ce Dieu protecteur, ce Dieu aimant et ce Dieu qui veut vraiment que nous puissions nous épanouir en ayant ce sentiment de sécurité. Seigneur, je prie vraiment que pendant cette semaine et pendant aussi toute cet été, tu puisses vraiment continuer de faire grandir en nous ce sentiment de sécurité et de pouvoir nous faire grandir aussi dans notre communion avec toi. Au nom de Jésus. Amen.